Chapitre 17. La première fleur. Cécilia, pressée de remplir sa mission, avait pénétré dans le cimetière par une entrée voisine, mais différente de celle qu'avaient choisie les envahisseurs. Dès qu'elle eut descendu l'escalier, elle se sentait suffoquée par la forte odeur des torches enflammées. « Ce n'est pas là le parfum de notre encens, » pensa-t-elle. « L'ennemi est déjà entré. » L'aveugle pénétra cependant jusque dans l'assemblée, remit la note de Sébastien en ajoutant les remarques qu'elle avait faites sur son passage. Sébastien conseillait aux fidèles de se disperser en se réfugiant dans les allées les plus basses et les plus profondes. Il priait le pontife de ne pas s'éloigner avant qu'il l'eût envoyé chercher, car sa personne était le point de mire de toutes les recherches. Pancratius pressa la jeune aveugle afin qu'elle songeât aussi à se sauver. « Non, répondit-elle, mon office est de surveiller la porte et de guider les fidèles avec sûreté. Mais l'ennemi peut vous saisir. »« Qu'est-ce que cela fait ? » répliqua-t-elle en souriant. « Si, en me prenant, on laisse échapper des vies plus utiles. Donnez-moi une lampe, Pancratius. » « Pourquoi faire? Elle ne vous aidera pas à voir, » observa-t-il en souriant. « C'est vrai, mais elle en éclairera d'autres. Cette lumière aidera peut-être vos ennemis à vous apercevoir. Je la veux même dans ce cas. Je n'aimerais pas être prise dans l'obscurité. Si mon époux vient à moi dans la nuit du cimetière, je désire au moins qu'il me trouve avec ma lampe allumée. » Puis elle s'éloigna et regagna son poste. Entendant le bruit de pas tranquille, elle pensa que des amis approchaient et tenait sa lampe en l'air pour les guider. Quand la troupe sortit, avec sa jeune et unique captive, Fulvius devint furieux. On avait extrait des profondeurs de la terre qu'une pauvre souris, c'était pique un échec complet. Il railla Corvinus au point que le misérable, furieux à son tour, écumait de rage. Puis, tout d'un coup, il demanda où était Torquatus. Corvinus lui raconta sa soudaine disparition, comme il avait raconté l'aventure de la sentinelle d'As. Il en parut très contrarié, il ne doutait pas qu'il n'eût été dupé par sa prétendue victime, qui s'était enfuie par un des mille détours inconnus du cimetière. Si cela était, sa captive devait le savoir, et il résolut de la questionner à ce sujet. Il se mit donc debout devant elle, prit son regard le plus furieux et le plus inquisiteur, et lui dit rudement: « Regarde-moi, femme, et dis-moi la vérité. »« Il me faudra vous dire la vérité sans vous regarder, Seigneur, » répondit la pauvre fille avec son plus joyeux sourire et sa plus douce voix. « Ne voyez-vous pas que je suis aveugle ?»« Aveugle ?» s'écrièrent ensemble tous les hommes en l'entourant et la considérant avec surprise. Mais sur les traits impassibles de Fulvius, l'émotion passait sans s'y arrêter, comme ces vagues onduleuses qui se jouent au souffle de la brise sur les moissons déjà mûres. Soudain, une idée jaillit dans sa tête, un fil conducteur tombait dans sa main. « Il serait ridicule, dit-il, de voir 20 soldats traversant la ville pour escorter une fille aveugle. Retournez donc à vos quartiers où vous serez largement récompensés. Vous, Corvinus, prenez mon cheval et allez chez votre père et lui racontez tout ce qui est arrivé. » « Je vous suivrai dans un char avec la prisonnière. »« Ne me trompez pas, Fulvius, » dit-il, humilié et furieux. « Ne manquez pas de la mener. Le jour ne peut se passer sans un sacrifice. »« Vous n'avez rien à craindre, » répondit l'espion du Levant. Fulvius se demandait en lui-même si, ayant perdu un espion dans la personne de Torquatus, il ne pourrait pas le remplacer par un autre. Mais la douceur placide de la pauvre mendiante le troublait plus que le zèle fanfaron du joueur, et les yeux sans regard de Cécilia lui jetaient un impassible défi qu'il n'avait pas trouvé dans les prunelles mobiles du buveur. Cependant, il voulut essayer de réaliser l'idée qui venait de traverser son esprit. Lorsqu'il se trouva seul avec elle dans le char, il adoucit sa voix pour lui parler. Il savait qu'elle n'avait pu entendre son dernier dialogue avec Corvinus. « Ma pauvre fille, lui demanda-t-il, combien y a-t-il de temps que vous êtes aveugle ?»«
Je l'ai toujours été, » répondit-elle.
« Quelle est votre histoire ? D'où venez-vous ? »
Je n'ai pas d'histoire. Mes parents étaient pauvres et ils m'amenèrent à Rome pour accomplir un vœu qu'ils avaient fait à la crypte des saints martyrs Chrysostus et Darien dans une maladie qui venait de mettre mes jours en danger. Je n'avais que 4 ans. Ils me confièrent à une pieuse infirme qui se tenait à la porte du titre de Faciola pendant qu'ils firent leur dévotion. C'est en ce jour mémorable qu'un grand nombre de chrétiens furent ensevelis sous une grêle de pierres et de terre lancées contre eux et trouvèrent ainsi une tombe toute faite. Mes parents eurent le bonheur de partager leur sort. Et depuis ce moment, comment avez-vous vécu ? Dieu est devenu mon seul père et son Église universelle ma mère. Dieu nourrit les oiseaux des airs, tandis que l'Église nourrit les plus faibles du troupeau. Je n'ai jamais manqué de rien depuis la mort de mes parents. Mais vous marchez seul dans les rues et sans crainte, comme si vous y voyiez. Comment le savez-vous ? Je vous ai vu. Vous rappelez-vous une matinée de cet automne où vous conduisiez un pauvre homme estropié le long du Vicus Patricius ? Cécilia rougit sans répondre. L'avait-il vu mettre dans la bourse du vieillard toute sa part d'aumône ? Vous vous êtes avouée chrétienne ? Demanda-t-il négligemment. Oh oui ! Pourquoi le cacherais-je ? Alors vous vous rendiez à une réunion chrétienne ? Sans doute, pouvait-elle être autrement ? Fulvius n'en voulait pas savoir davantage. Ses soupçons étaient fondés. Agnès, dont Torquatus n'avait pu ou n'avait voulu lui rien dire, était certainement chrétienne. Son jeu était indiqué clairement. Ou elle céderait, ou il serait vengé. Il s'arrêta un moment, puis regardant l'aveugle en face, il lui dit « Savez-vous où vous allez ?»« Devant un juge terrestre qui, je l'espère, m'enverra rejoindre mon époux dans le ciel. » « Et vous vous rendez chez le juge avec ce calme ? » demanda-t-il surpris, car il n'avait vu qu'un sourire sur les lèvres de la jeune fille. « Plutôt avec joie » répliqua-t-elle simplement. Ayant appris ce qu'il désirait, Fulvius, arrivé à la porte de la basilique émilienne, remit sa prisonnière aux mains de Corvinus et l'abandonna ensuite à son sort. La journée avait été froide et humide, comme la soirée précédente. Le temps, ajouté à l'humidité de la nuit, avait refroidi l'enthousiasme. Le préfet fut obligé de siéger à l'intérieur, où la foule ne pouvait pénétrer. Et comme les heures s'étaient envolées sans amener d'arrestation, de procès ou de nouvelles, peu à peu les curieux se retirèrent. Quelques personnes restèrent seulement pour passer dans les jardins publics, l'heure de récréation qui suivait midi. Mais au moment de l'entrée de la prisonnière, un nouveau groupe de spectateurs arriva et demeura près de la porte d'où l'on pouvait tout voir. Corvinus avait prévenu son père de ce qui allait arriver et Tertullus, ému d'un peu de compassion, imagina qu'il n'aurait pas grande peine à vaincre l'obstination d'une pauvre fille ignorante et aveugle. Il demanda donc aux spectateurs de rester immobiles afin qu'elle se crût seule avec lui et qu'il pût essayer ainsi de la persuader. Il menaça des punitions les plus sévères celui qui oserait rompre le silence. Tout arriva comme il le prévoyait. Cécilia se croyait seule avec le juge qui lui demanda avec bonté « Enfant, quel est ton nom ?»« Cécilia. »« C'est un nom patricien. Le tiens-tu de ta famille ?»« Non, je ne suis pas de race patricienne. Mes parents n'eurent qu'une noblesse. Quoique pauvres, ils moururent pour le Christ. Comme je suis aveugle, ceux qui m'ont élevé m'appelaient Séca, l'aveugle. » Et par bonté, ils adoucirent ce surnom en un gracieux diminutif. Mais à présent, renonce à ces folies des chrétiens qui t'ont laissé pauvre et aveugle. Honore les décrets des divins empereurs, offre des sacrifices aux dieux, tu auras de beaux et riches vêtements, une bonne nourriture et les meilleurs médecins essaieront de te rendre la vue. Proposez-moi des motifs plus tentants que ceux-ci. Ce sont des choses pour lesquelles je remercie chaque jour Dieu et son divin Fils, auquel vous voulez que je renonce. Que veux-tu dire ? Je remercie Dieu d'être pauvre, mal vêtu et nourri grossièrement, parce que j'ai par là autant de ressemblances avec Jésus-Christ, mon seul époux. Fille insensée ! Interrompit le juge, perdant un peu patience. Tu as donc déjà appris toutes ces stupides visions? Au moins, tu ne peux remercier ton Dieu de t'avoir rendu aveugle. »
C'est de cette infirmité plus que de tout le reste que je le remercie chaque jour de toute mon âme.
Quoi ? Tu trouves que c'est un bonheur de n'avoir jamais vu une figure humaine, de ne pouvoir contempler les splendeurs du soleil et les beautés de la terre ? Quelle étrange folie !
Ce n'est que la vérité, noble Seigneur. Des profondeurs de ce que vous appelez l'obscurité, je vois un être que j'appellerai le centre de la lumière, et qui contraste entièrement avec tout ce qui m'entoure. Il est pour moi ce que le soleil est pour vous, sa lumière est une et rayonne partout. Et cet être, d'une incomparable beauté, me contemple toujours et sourit à toutes mes actions. C'est à lui que mon unique amour s'est donné sans partage. Pour le monde entier, je ne voudrais pas que sa splendeur fût voilée par un soleil plus brillant, que ses traits bien-aimés se confondissent dans mon âme avec d'autres traits, et que des visions terrestres puissent détourner mes regards de son unique contemplation. Je l'aime trop pour ne pas désirer le voir seul. Allons, assez babillé. Encore une fois, obéis aux empereurs, ou j'essaierai l'effet que la douleur produira sur toi. Elle t'apprivoisera peut-être.
La douleur ? Répéta-t-elle comme un innocent écho.
Oui, la douleur. Ne l'as-tu jamais ressentie ? Est-ce que personne ne t'a fait du mal jusqu'à présent ?
Oh non ! Les chrétiens ne se font jamais de mal entre eux.
Le chevalet était dressé comme à l'ordinaire devant le préfet. Il fit signe à Catulus d'y étendre la jeune fille. L'exécuteur la saisit par les bras et, comme elle ne fit aucune résistance, elle fut facilement étendue sur cette couche de bois. En un instant, les nœuds coulants, toujours prêts, furent passés autour de ses chevilles et ramenèrent ses bras au-dessus de sa tête. La pauvre fille, aveugle, ne voyait pas qui lui faisait tout cela. Elle pensait que c'était la même personne qui venait de lui parler. Jusqu'à présent, les spectateurs avaient fait silence. Maintenant, ils retenaient jusqu'à leur haleine. Pendant ce temps, les lèvres de Cécilia étaient agitées par une fervente prière.
Encore une fois, avant d'aller plus loin, je te commande de sacrifier aux dieux si tu veux échapper à des tourments cruels, dit le juge d'une voix rude.
Ni les tourments ni la mort, répondit fermement la victime déjà liée sur l'autel, ne pourront me séparer de l'amour du Christ. Je ne puis offrir de sacrifice qu'au seul Dieu vivant, et cette oblation est prête, c'est moi-même.
Le préfet fit un signe à l'exécuteur. Il fit faire un tour rapide aux deux roues du chevalet, dont les mécaniques soutenaient les cordes. Les membres de la jeune fille furent violemment tiraillés par cette brusque secousse, qui ne les disloqua cependant pas comme l'aurait fait un second tour de roue. Mais ce premier tour de roue suffit pour lui faire souffrir d'affreux tourments qui se répandaient dans tout le corps de la jeune victime. Sa cécité, qui ne lui permettait pas de voir les préparatifs de l'exécuteur, ajoutait une souffrance plus grande encore à celle qu'elle endurait déjà. Un tremblement nerveux agitait ses membres, et sa pâleur extrême témoignait seule ses douleurs.
« Ah, ah !» s'écria le juge, « il paraît que tu sens cela. Allons, que cette épreuve te suffise. Obéis, et tu seras libre. » Elle ne parut pas écouter les paroles du préfet, mais ses sentiments s'exhalèrent dans la prière suivante.
« Je vous remercie, ô Seigneur Jésus-Christ, de ce que votre amour m'a permis de souffrir pour la première fois en votre nom. Je vous aimais dans le calme, je vous aimais dans le bien-être, je vous aimais dans la joie, et maintenant, dans la souffrance, je vous aime plus encore. Il est plus doux d'être comme vous étendu sur votre croix que d'avoir le repos sur une rude planche à la table du pauvre. »
« Tu plaisantes, s'écria le juge, visiblement vexé. Tu abuses de ma patience. Nous essaierons quelque chose de plus fort. Ici, Catulus, applique-lui une torche ardente sur les côtes. »
Un frisson d'horreur et de dégoût courut dans l'assemblée qui ne pouvait retenir un sentiment de sympathie pour la pauvre enfant aveugle. Un murmure d'indignation longtemps contenu s'échappa soudain de tous les points de la salle. Cécilia, pour la première fois, apprit qu'elle n'était pas seule avec ses juges. Une vive rougeur de modestie colora son front, sa figure et son cou, jusque-là d'une blancheur de marbre. Le juge, furieux, réprima le mouvement de pitié qui traversait l'assemblée. Tous étaient redevenus silencieux quand Cécilia dit encore avec plus de ferveur « Oh, mon cher seigneur et époux bien-aimé, je vous ai toujours été sincèrement fidèle. Pour vous, je veux souffrir les tourments et la douleur, mais épargnez-moi la honte des regards humains. Laissez-moi venir à vous maintenant, sans que j'aie à me voiler le visage de mes mains quand je paraîtrai devant vous. » On entendit dans l'assemblée un second murmure de compassion. « Catulle !» hurla le juge exaspéré. « Fais ton devoir, misérable ! Qu'est-ce que tu fais, tournant depuis si longtemps autour du chevalet avec ta torche enflammée ?» L'exécuteur avança. De sa main, il allait écarter la robe de la jeune martyre pour appliquer la torture. Mais il recula aussitôt et, se tournant vers le préfet, il lui dit d'une voix basse et troublée « Il est trop tard, elle est morte !»« Morte ?» cria Tertullus. « Morte d'un seul tour de roue, c'est impossible !» Catulus imprima au chevalet un tour en arrière. Le corps resta immobile. C'était vrai. La jeune fille avait déjà passé du chevalet au trône céleste, de la figure menaçante du juge aux divins embrassements de son époux. Le souffle de son âme, comme un doux parfum, s'était-il exhalé dans l'encens de la prière ? Ou bien son sang, reflué au cœur par sa première rougeur virginale, avait-il brisé un vaisseau trop faible pour le contenir ? Dans le silence d'étonnement et d'horreur qui suivit, tout à coup, une voix claire et hardie s'éleva du groupe qui restait près de la porte. « Ne vois-tu pas qu'une pauvre fille aveugle a sur la vie et sur la mort plus de pouvoir que toi et que tes maîtres cruels n'en possédaient ?»« Quoi, pour la troisième fois depuis 24 heures, tu oses te trouver sur mon chemin ? Pour le coup, tu ne m'échapperas pas !» Corvinus accompagna ces mots d'affreuses imprécations, tout en s'élançant du tribunal où il siégeait à côté de son père, pour rejoindre le groupe des spectateurs. Mais pendant qu'il courait en aveugle, un officier d'une taille herculéenne se trouva sur son passage, sans doute par hasard, et s'avança vers lui. Corvinus chancela dans la balustrade. L'officier le releva et, le tenant encore, lui dit « J'espère que vous ne vous êtes pas fait de mal, Corvinus. » « Non, non, laissez-moi passer, Guadatus, laissez-moi passer !»« Où donc courez-vous si vite? Puis-je vous aider ?» demanda l'officier, le retenant toujours serré. « Lâchez-moi donc, vous dis-je, ou il sera parti !»« Qui donc sera parti ?»« Pancratius, il vient à l'instant d'insulter mon père !»« Pancratius ?» dit Quadratus, jetant un coup d'œil autour de lui et voyant que l'adolescence était éloignée. « Je ne l'aperçois pas !» Et il le laissa partir. Mais il était trop tard, Pancratius avait trouvé un refuge dans la Subure, chez les Diogènes. Pendant que cette scène se passait, le préfet, mortifié, ordonna à Catulus de jeter le corps dans le Tibre. Mais un autre officier, soigneusement enveloppé dans son manteau, fit à Catulus un signe qu'il comprit, car il tendit la main pour recevoir une bourse. En dehors de la porte Capène, à la villa de Lucius, 1 heure après le coucher du soleil, dit Sébastien. On vous le remettra intact, dit l'exécuteur. De quoi pensez-vous donc que cette fille soit morte ? Demanda en sortant un spectateur à son compagnon. De peur, je pense, répondit-il. De pudeur chrétienne, dit un étranger qui passait.